Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième table ronde de jeux de rôle aux Utopiales, qui fait suite à celle qu'on avait organisée l'année dernière. Donc merci à la Cité des Congrès et aux Utopiales d'avoir permis d'organiser cette table ronde qui a eu un grand succès l'année dernière et on espère aura autant de succès cette année, avec encore quatre intervenants cette année qu'on est très fiers d'avoir avec nous ici ce soir. Donc à ma droite, Anne Fakouri, qui est romancière, qui a fait également beaucoup de jeux de rôle grandeur nature et un peu de jeux de rôle sur table aussi. Mais c'est surtout pour nous parler de son expérience en tant que romancière et en tant que joueuse de jeux de rôle grandeur nature qu'elle est là. Elle a écrit chez La Talente l'excellent diptyque Le clairvoyage et la brume des jures, que je conseille. C'est très très bon, très très bon diptyque. À côté d'elle, David Brie, qui vient d'écrire, donc il y a un rôliste confirmé, qui a écrit, à partir de sa campagne de jeu de rôle, un roman qui s'appelle La seconde chute d'Arvalon, qui est publié chez Mnemos, là c'est le deuxième tome, qui est donc une trilogie qui se base sur sa campagne de jeu de rôle, qui est donc adaptée clairement des parties. Et donc le troisième tome est publié bientôt. Le troisième tome vient de sortir. À sa droite, Arnaud Cuidet, qui est donc un auteur de jeux de rôle prolifique actuel, qui a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas tout énumérer parce que sinon on est encore là demain. En ce moment, l'actualité de Arnaud, c'est il est rédacteur en chef de Dragon Rouge, le magazine de jeux de rôle, et il vient de sortir aux éditions du Matago le jeu Metal Adventures. Donc un jeu de pirates de l'espace. Et à sa droite, Fabrice Collin, écrivain prolifique de style de l'imaginaire, qui a publié aussi trop de romans pour que je les énumère tous. J'ai sous la main La fin du monde, publié chez Autremonde, donc chez Mango, que j'ai moi-même lu, que j'ai beaucoup aimé. Et qui a aussi participé au milieu rôlistique il y a quelques années, notamment en tant que journaliste pour Casus Belli et aussi dans divers univers de jeux de rôle en tant que traducteur et en tant qu'auteur. Donc ce soir, le sujet qui nous regroupe tous ici, c'est les mondes meilleurs du jeu de rôle, donc vous avez vu en lien avec le thème des Utopiales cette année. Le jeu de rôle nous propose plusieurs types d'univers, SF, du contemporain, fantastique, horreur, médiéval, fantastique. Qu'est-ce qu'on recherche dans ces mondes? Quels sont ces mondes? Quel genre d'immersion on se donne? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de monde meilleur dans ces mondes? Je vais proposer de prendre la parole comme vous voulez. Après, je vous poserai aussi des questions un peu plus personnelles. On va commencer par un peu votre vision en tant que créateur d'univers, puisque vous êtes tous créateurs d'univers d'une certaine manière, certains en tant que romancier, d'autres en tant qu'auteur, parfois les deux. Parlez-moi un peu de votre expérience de création d'univers, comment vous les avez vécues, ces créations d'univers. Parlez-moi de ces créations. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Allez, Fabrice.
Alors, la création d'univers, c'est sur le jeu de rôle et sur le roman, c'est assez différent. Moi, j'ai commencé évidemment par le jeu de rôle. Quand on écrit un roman, il y a vraiment un problème avec l'ego, quoi. C'est-à-dire que on est tout seul a priori. Moi, j'aime tellement pas ça que j'ai écrit plusieurs romans en commun. Mais le grand plaisir pour moi de la création d'univers en jeu de rôle, ça a été le travail en groupe, quoi. Après, alors bon, les questions qui arrivent toujours, c'est comment on passe de l'univers des jeux de rôle au roman. C'est presque plus une question technique, quoi. Moi, j'ai commencé à écrire des scénarios de jeux de rôle quand j'avais 16 ans. J'ai jamais trop quitté ce milieu. J'ai d'abord été pigiste, après j'ai effectivement été journaliste à Casus Belli. J'étais salarié de Casus Belli. Ensuite, j'ai créé des univers pour des jeux de rôle. Enfin, j'ai travaillé sur des jeux de rôle. la maison d'édition pour laquelle je travaillais principalement, c'était Multisim. Multisim, il y avait Mnemos, dont au départ, il faut le signaler quand même, la finalité vraiment au commencement de Mnemos, c'était publier des romans à partir des univers de jeux de rôle pour développer ces univers. Puis il s'est passé un truc assez marrant, c'est que finalement, ça intéressait pas. Enfin, les gens voulaient publier leurs propres romans, quoi, et plus seulement des outils de support. Et ça a donné Mnemos, et ça a donné ensuite, par extension, d'une certaine façon, Bragelonne, puisque c'était Stéphane Marsan qui s'occupait de ça, et ça a coïncidé avec un essor de la fantasy, voilà, assez impressionnant. Moi, j'ai vécu un moment du jeu de rôle, du marché du jeu de rôle, où pendant quelques années, on a pensé que ça pouvait être quelque chose de que vraiment le jeu de rôle allait se démocratiser et allait envahir tous les foyers comme le fait aujourd'hui le jeu vidéo par exemple. C'est-à-dire que quand je travaillais à Casus Belli, c'était en 93, quelque chose comme ça, c'était une revue qui tirait à 60 000, hein, qui on vendait 35 000 exemplaires, ces chiffres assez faramineux.
C'est énorme quand on compare au marché actuel, puisqu'un un magazine comme Dragon Rouge, par exemple, ça doit être... Combien de milliers d'exemplaires on vend sur Dragon Rouge?
Entre 8 et 10. 1000 quand même.
Et quelque chose comme JDR Mag, par exemple, donc Jeux de Rôle Magazine, c'est environ 4000 numéros. Donc c'est du simple, c'est décuplé le marché entre les années 90 et maintenant.
Bon, et puis après, il y a eu plein de choses, mais je pense notamment l'arrivée du... Enfin, l'amélioration au niveau des jeux vidéo qui a fait que... mais ça, vous serez peut-être certainement meilleur que moi pour en parler, parce que... ensuite, moi, je suis devenu romancier, j'ai plus joué aux jeux de rôle aussi pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer, qui sont le fameux syndrome « j'ai une copine, ah, j'ai des enfants, j'ai un travail », etc. Bon, voilà, je pense qu'il parle à beaucoup de gens ici. Mais voilà, j'ai vécu, de mon point de vue, une sorte de d'âge d'or du jeu de rôle, où également, à un niveau stratégique, économique, Multisim, c'était adossé à un éditeur de jeux vidéo. Enfin, il y avait une sorte de synergie, un truc qui n'était pas très clair, de savoir si nos compétences de créateurs de monde pouvaient être aussi mises au service du jeu vidéo. Et de fait, il y a un certain nombre d'anciens acteurs du monde du jeu vidéo qui ont fini, entre guillemets, chez Blizzard, etc. Donc, à travailler sur maintenant des jeux de rôle en ligne. Mais pour moi, c'est par rapport à l'expérience d'écrivain, ça reste quand même deux expériences très très différentes. Il y en a évidemment une qui a nourri l'autre. J'allais dire encore une fois d'un point de vue technique, et c'était un peu la blague qu'on faisait au départ. C'est le jeu de rôle, tu apprends à écrire très vite pour pas grand chose, donc t'es prêt à être romancier, quoi. C'est et puis bon, mais tous les gens de cette génération, enfin, parce que ça a quand même produit beaucoup d'écrivains, hein, je pense notamment à notamment il y a eu récemment Jaworski par exemple, qui a très très bon romancier, voilà, mais que ce soit des gens comme Laurent Klotzer, David Calvo, Mathieu Gabory, tous mes copains entre guillemets de cette époque là sont des gens qui viennent du jeu de rôle, donc déjà ça a créé ça, mais voilà, après c'est on est passé à autre chose pour des raisons personnelles, et il y a une nostalgie toujours de cette création en commun, et de temps en temps, je sais que quelqu'un comme Mathieu Gabory a des sortes de remontées comme ça, un peu d'acide, 10 ans après, il se dit mais faisons un jeu de rôle, voilà. Et ma présence ici prouve aussi que, enfin, moi je suis parfois des fois interpellé par des gens qui disent ah, Casus Belli en 93, etc. Donc, et je comprends ça, quoi, hein. Et en même temps, je constate actuellement que finalement ce marché et ce milieu a continué d'exister sans nous, heureusement, et qu'il y a énormément de choses qui se sont développées de façon, à mon avis, plus professionnelle qu'il y a 10 ou 15 ans. On a essuyé aussi pas mal de plâtre à ce niveau-là. Et voilà, tout ça est super positif. Et moi, je suis assez curieux de vous entendre, vous, parce que je ne vous connais pas, en fait. Mais parce que c'est aussi un milieu, justement, qui est très vivant. Les acteurs changent assez rapidement, les maisons d'édition, les circuits de distribution. Et donc, bah voilà, vous partez 10 ans. Quand vous rentrez, c'est plus pareil chez vous, quoi. Donc... voilà, j'ai un peu balayé tout le spectre. Voilà. J'espère que je vais pu parler pendant trois quarts d'heure.
Voilà, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Arnaud, tu te lances ?
C'est moi.
Ouais. Au niveau création d'univers, comment c'est quelque chose que tu as vécu comment ?
C'est souvent... On m'entend là ? Ouais, ok, merci. C'est assez... Enfin, pour moi, c'est assez difficile. Je pense que je pourrais pas du tout faire comme Fabrice, partir sur d'autres médias, enfin, romancier ou d'autres médias. Moi, je suis assez besogneux, en fait. J'ai besoin d'avoir un carcan de règles ou un thème très fort pour pouvoir, à partir de là, petit à petit, construire l'univers un peu, je dirais, en cercle excentrique. Et je suis souvent assez étonné et admiratif de la créativité soit d'autres auteurs de jeux de rôle, soit des romanciers, parce que ouais, voilà, moi c'est assez laborieux. Et en fait, je pense que j'ai besoin des règles. Voilà, souvent dans le jeu de rôle, on a tendance à opposer les règles et l'univers, comme si plus il y avait de règles, moins il y aurait pour y avoir de roleplay et de background. Moi, j'ai besoin que les deux marchent ensemble. Je construis l'univers par rapport aux règles. Parce que il faut pas que le, enfin, je pense que l'univers doit entre guillemets obéir aux règles du jeu, et inversement, il y a des règles que je crée pour coller avec des choses que je veux mettre dans l'univers, et les deux se construisent comme ça, en se main dans la main, progressivement au fil de la création du jeu. Et je pense pas que je pourrais faire autre chose que des univers de jeu, en fait, parce que il me manquerait une des deux pattes pour avancer, en fait.
Ça t'a jamais intéressé d'essayer de créer un univers en soi tout seul pour y raconter une histoire comme le fait un romancier, par exemple ?
Eh ben alors, en fait, il se trouve qu'il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai fait une bande dessinée, et je pense que j'ai fait toutes les erreurs du rôliste qui s'exporte sur un autre média. Donc c'était une bande dessinée d'héroïque fantaisique, des dragons, enfin il y avait tous les thèmes classiques qu'on peut avoir dans les jeux de rôle, mais je pense que c'était beaucoup trop compliqué. Enfin ça... Voilà, ça n'a pas été hyper conclu. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a plu de le faire, mais au final, un an après, je me dis qu'il y a quelque chose, enfin, il y a un déclic que j'ai pas réussi à faire, ou enfin, je sais pas, ou alors je l'ai trop fait, enfin, ça n'a pas marché en tout cas.
Ok. David, tu peux nous parler, toi, de la création de l'univers de...
Ouais, donc moi, ça va être très, très différent d'Arnaud, dans le sens où les règles, c'est quelque chose dont je me préoccupe absolument pas. Moi, ça va plus, ce qui va m'intéresser, ça va être tout ce qui est ambiance, tout ce qui est... Je travaille beaucoup, j'ai fait quelques interviews là dernièrement où on me demande quelles sont mes sources d'inspiration, et je réponds toujours à la même chose, c'est la musique et tout ce qui est sonorité. Et je vois tout le monde d'Hervallon que j'ai créé, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs pays, plusieurs régions, et chaque région, je l'associe à une ambiance, et à, pas un thème musical, ça serait trop restrictif, mais vraiment à une ambiance. Et du coup, c'est vraiment en opposition par rapport à des règles, parce qu'au final, le monde d'Hervallon, je l'ai créé, et pour diverses raisons, on a d'ailleurs changé de système de jeu en cours, et ça n'a absolument rien changé à l'histoire. Donc ma façon de travailler est très différente, et du coup c'est vachement intéressant. Après, par rapport à Fabrice, quand il parlait du travail du romancier et la différence par rapport au travail de créateur de monde dans le jeu de rôle, je dirais que la grande facilité qu'on a, en tout cas que moi j'ai eu dans le monde d'Hervallon, et c'est aussi l'un des vrais plaisirs que j'y ai trouvé, c'est qu'on propose un monde qui est pas fini, et ce monde va s'étoffer, va grandir avec les questions que vont poser les joueurs, avec les directions que eux vont prendre. Hervallon, au départ, il y avait ce royaume, il y avait ces duchés qui étaient présents, il y avait quelques villes, quelques endroits importants. Et les joueurs, en me disant, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, ou alors quand ils ne suivaient pas forcément les scénarios, qu'ils me disaient, ouais, mais je vais plutôt aller m'interroger à telle personne ou à tel endroit où je vais me perdre dans telle région. Du coup, ça nous pousse, en tant que maître de jeu, à inventer, mais de manière instantanée, parce qu'on est un peu des machines à inventer quand on est autour de la table. à inventer, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, c'est là où le travail est très différent, c'est que le romancier, enfin, après moi je connais pas ce travail-là, lui il doit tout imaginer d'un coup et donner toutes les réponses d'un coup. Et alors qu'en termes de jeu de rôle, je trouve ça plus facile puisque les réponses se font au fur et à mesure avec un travail qui est collaboratif pour le coup. On a beaucoup de questions des joueurs et c'est ça qui nous fait avancer.
Je vais rebondir deux minutes parce qu'après je sais que Anne va parler pendant une demi-heure et on l'appelle. Effectivement, la grosse difficulté, et notamment dans la fantasy où le monde est important dans les romans, c'est la difficulté énorme du romancier, c'est de mettre ce monde en scène et de raconter une histoire et de présenter un monde à travers une histoire. C'est-à-dire quand vous avez un jeu de rôle, bon, de toute façon le monde c'est une sorte de documentation, c'est un guide, bon, vous ouvrez, on vous dit tel pays est comme ça, ici vous avez telle créature et là règne le roi machin et ici le sorcier bidule. Bon, en tant que romancier, pour faire ça c'est super difficile, vous pouvez pas balancer les informations ex nihilo comme ça, alors on est obligé de trouver des astuces
sauf quand on s'appelle Tolkien, on met tout d'un coup.
Ouais, mais alors, il faut aussi se l'envoyer, quoi, les trucs de Tolkien. Hein. C'est vrai que maintenant, bon, alors il y a les astuces. Deux personnages cheminent et, au fait, tu sais que la forêt qui est là-bas, ben, tu sais que avant c'était le roi machin qui s'en occupait, mais il a été tué par un tel de la dynastie truc, ce qui m'amène c'est à me vrai. Parler du dieu. Voilà. Et en fait, par rapport à ça, moi, quand j'étais au départ à je regardais un peu les manuscrits qui arrivaient chez Mnemos et après chez Bragelonne, les manuscrits de fantasy. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rôlistes qui s'essayent au roman. Et ces gens inventent des univers fantastiques. Enfin, on voit qu'il y a une débauche d'imagination. Il y a des très gros univers. L'univers, il est là. Et ça, c'est pas le problème, quoi. Le problème, c'est de raconter une histoire par rapport à ça. Et c'est de faire un choix qui est souvent... drastique et réducteur si vous voulez mais finalement ça rejoint une partie de jeu de rôle, vous allez avoir un monde et puis les joueurs vont jouer dans ce monde là et finalement ils vont peut-être explorer qu'une petite partie du monde, sauf qu'on peut continuer après, on peut aussi les orienter, on peut leur dire mais attendez, vous n'êtes pas allé dans la ville bidule, enfin on leur dit pas comme ça mais c'est assez intéressant. Dans le roman, vous allez créer un monde et vous allez vous servir parfois simplement d'une petite partie de ce monde-là. Et d'ailleurs, en reprenant l'exemple de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le monde est beaucoup plus vaste et plus complexe que ça. Il est loin d'avoir tout raconté. Alors après, on sort des bouquins derrière, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains et notamment de fantasy. Ils développent des bibles de monde comme un auteur de jeu de rôle. Et ils se servent d'une petite partie de ce monde-là pour raconter leur histoire, mais ils ont quand même besoin de ce socle, ils ont besoin de savoir que ça existe derrière pour pouvoir mettre leur histoire en scène correctement.
Ok, alors on va écouter Anne qui s'est fait souffler la parole vilainement par Fabrice.
Je vais essayer de faire court et structuré, mais je ne vous garantis rien. Moi, je suis un petit peu l'élément perturbateur là, parce que je ne fais pas de jeu de rôle, je fais du jeu de rôle grandeur nature, donc dans la création d'univers. Je suis joueuse et j'organise aussi avec toute une équipe très talentueuse des grandeurs nature. Et dans la création d'univers, c'est quelque chose de vraiment très différent. Dans un roman, évidemment, on contrôle tout. Dans un jeu de rôle, on contrôle puisque le maître du jeu est en face des joueurs et peut donc rebondir sur les interventions des joueurs. Dans un grandeur nature, et je pense que vous le savez, on livre un monde aux joueurs. Sans contrôle, on n'est pas là quand il le joue. Et c'est ça qui donne d'ailleurs toute la liberté du grandeur nature et tout le plaisir. Je crois que dans le plaisir qu'on prend en créant un univers de grandeur nature tient vraiment au fait que les joueurs s'approprient les personnages qu'on a créés, le monde qu'on a créé, l'histoire qu'on a créée et arrivent à dépasser notre propre univers. Et ça c'est vraiment un... En tout cas, en tant qu'organisateur, c'est vraiment un plaisir. Bon, maintenant, moi, c'est un loisir. Je n'ai jamais travaillé. Évidemment, de toute façon, on ne travaille pas dans le grandeur nature, à la différence du jeu de rôle, puisque chaque association crée son univers. Donc, c'est aussi une perception un petit peu différente du jeu, je pense, et de la façon dont on crée. Il y a aussi des contraintes matérielles. qu'on n'a pas du tout dans le jeu de rôle, puisque sans vous dénigrer évidemment, vous êtes autour d'une table avec des dés. Bon, dans le grandeur nature, on n'a pas cette projection absolue. On a besoin d'être crédible, donc d'avoir des décors, d'avoir des costumes, et c'est important pour mettre une ambiance. On dépasse le mot. C'est encore la grande différence avec le roman. On est dans l'action. On n'est pas dans le mot. On n'est pas uniquement dans la parole et dans l'impression. On est aussi dans une ambiance peut-être plus concrète. Voilà.
Vers quel genre de monde vous êtes tourné dans le GN justement? Est-ce que c'était un seul monde qui s'est développé de GN en GN, ou est-ce que c'était plusieurs mondes à chaque nouvelle manifestation?
Alors en tant que joueuse, je crois que j'ai fait beaucoup de monde. J'ai même joué dans le monde du Trône de Fer. Bon, ça, je vous conseille pas de jouer dans un monde que vous aimez par les romans, c'est un petit peu perturbant. En revanche, j'ai eu la chance de travailler avec une association qui s'appelle les Masques de Danath, qui s'appelait les Voyageurs du Bord du Monde, qui ont développé un monde qui s'appelle Danathelina, qui est une espèce de monde baroque. Et donc, on a récemment fait le quatrième volet de ce monde. C'est un monde vraiment complet dont on pourrait tirer des romans, pour le coup, avec des légendes qui sont construites. Donc, ça dépend vraiment.
Est-ce que ça a constitué une inspiration, justement, cette immersion dans les jeux de grandeur nature?
Pour le clairvoyage,
par exemple?
Oui, il y a une scène de bal dans le clairvoyage qui est une scène sortie de ce monde de Nanantenina, qui était fabuleuse. Là, j'étais joueuse, pas encore organisatrice, qui était fabuleuse et que j'ai évidemment réutilisée pour la scène du bal dans le clairvoyage.
Alors, je vais à nouveau poser une question, vous allez réagir comme... Vous le sentez, dans les mondes de la littérature, du jeu de rôle ou du grandeur nature, qu'est-ce qui nous offre comme perspective? Est-ce qu'on peut parler de monde meilleur, de monde pire? Est-ce qu'on a déjà vu en fait des mondes de jeu ou de roman qui soient meilleurs, entre guillemets? Ou est-ce qu'à chaque fois, on va toujours se projeter dans le pire?
En tout cas, dans le jeu de rôle... Je sais pas si c'est vraiment meilleur ou pire. Enfin, si c'est meilleur au sens d'un monde parfait où tout le monde vit heureux, tout ça, machin, bidule. En principe, en jeu de rôle, non. Parce que s'il n'y a pas de problème à résoudre, on n'a pas grand-chose à jouer, en fait. Il y a un jeu de rôle, un univers D20 qui s'appelle Dawnforge, qui part du principe que le mal a été vaincu, que les gentils ont gagné, tout ça. Mais c'est bien le seul. Même quand on se projette dans un lointain futur, il y a toujours une race d'aliens quelconque ou une armée de droïdes ou je ne sais quoi pour causer des problèmes. Même dans l'héroïque fantasy féerique, il y a toujours un sauron quelconque pour menacer les peuples libres. Donc même quand il y a de la magie ou de la science fantastique, le monde en lui-même, en tout cas politiquement ou socialement, il y a toujours un problème à résoudre pour que les PJ aient quelque chose à jouer et des XP à gagner, quoi.
David, ouais.
Par rapport à ça et par rapport au monde meilleur, je trouve que ce qui est intéressant, et notamment dans le jeu de rôle, c'est il y a deux façons de faire il y a plein de façons, mais il y en a deux principalement. C'est une bataille entre le bien et le mal. Typiquement, c'est Tolkien et plein de choses où le mal il est clairement identifié. Et ce que je trouve, Tolkien c'est génial, j'adore comme tout le monde. Ce que je trouve par contre super intéressant, et moi ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle, c'est quand le bien et le mal n'existent pas. C'est-à-dire que c'est juste deux points de vue différents. Alors après, on ne parle pas de questions de morale ou effectivement frapper quelqu'un qui est à terre ou tuer la veuve et l'orphelin, c'est mal, c'est vilain. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de positionner des personnages dans une situation où il faut qu'ils prennent parti. C'est-à-dire qu'ils doivent, eux, décider dans quel camp ils vont aller et une fois qu'ils sont dans ce camp-là, ce qu'ils sont prêts à faire. Et du coup, le bien et le mal, au final, on s'en fout un peu. Ce qui va pousser les personnages, c'est leur vision à eux d'un monde meilleur ou leur vision à eux du monde auquel ils veulent participer. Et dans Hervalon, y a vraiment cette division-là où, au final, je pense que ce qui serait super intéressant quand je serai vieux et que j'aurais plus que ça à faire, c'est de réécrire Hervalon, mais de l'autre côté, où les personnages qui sont dans ce livre d'héros seraient, j'en suis certain, des grands méchants. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir cet aspect-là.
Anne?
Alors, dans le grandeur nature, il y a toujours un moment où on sauve le monde. Donc moi, en général, c'est le moment où je suis à l'auberge parce qu'il est 4h du matin, que j'ai pas envie de courir autour des douves. Mais il y a toujours un moment, effectivement, où on est confronté au grand méchant. Et effectivement, en général, en tant qu'organisateur, je pense, on laisse quand même une chance au PJ de s'en sortir. Donc, on est quand même dans l'idée de jouer des héros, donc de faire triompher le bien de façon un petit peu manichéenne, caricaturale. Voilà.
Très bien. Je vais poser une ou deux questions sur vos expériences personnelles un peu en écriture et en jeu. Je suis en train de me demander à qui je vais poser une question. Qui est-ce qui a moins parlé ? Tiens, Arnaud, t'as pas beaucoup parlé.
Pourquoi
alors, Arnaud, donc sur un projet en particulier comme Metal Avenger par exemple, qu'est-ce que t'as voulu offrir comme monde à tes joueurs ?
Wow. J'ai voulu offrir un monde riche en aventures, en fait, pour paraphraser le titre. Ce qui était important surtout, c'était pas forcément qu'il soit hyper détaillé ou hyper crédible, mais c'était surtout qu'il soit fun, hein, qu'il donne envie d'y aller, de visiter les planètes, de se battre contre des gars, de sauver des princesses, etc. C'était qu'il soit un petit peu excitant et exotique. Après dans les suppléments il y aura le temps de développer des choses, d'aller plus en profondeur sur les nations etc. mais avant tout il fallait que ce soit en haut couleur et un peu péchu, donc c'est difficile comme introspection ça. J'ai entre guillemets mis le paquet sur sur les voyages spatiaux, sur la possibilité de se déplacer, d'aller très loin, de découvrir, enfin un peu comme Star Trek, quoi, d'aller là où personne n'est jamais allé. J'ai plutôt insisté sur ce qui était finalement inconnu et pas maîtrisé par les différentes nations dans cette galaxie imaginaire, que sur les endroits où c'était calme, tranquille et policé, parce qu'après les pirates de l'espace, eux, ils vont aller de là où c'est. Là où c'est un peu le chaos, quoi. J'ai essayé d'offrir un monde effectivement un petit peu fou et sexy.
Et les inspirations, c'est choses genre Cobra, Albator ou...
C'est ouais. Ça, ouais. J'ai 35 ans, je plaide coupable. Donc, c'est sur Cobra, Albator. Pour faire plus jeune, je peux dire Cowboy Bebop, mais même ça, c'est plus si jeune que ça. Et,
quand même, ça va.
Ouais, ça, bon. Et alors, il paraît qu'il ne faut pas trop le dire parce que c'est has-been, mais les bandes dessinées de Philippe Druillet. Enfin, que moi je trouve pas du tout has-been. Et le Salambo de Druillet, c'est pour moi le space opéra qui me fait triper. Je recommande la lecture à tout le monde.
David, quand à la création de, enfin au passage d'Hervallon entre le jeu de rôle et le roman, est-ce qu'on est obligé de sabrer l'univers un peu, d'abandonner certaines parties ou de le modifier d'une quelconque façon ou pas?
Alors moi je réponds non, mes joueurs ont répondu oui, et je pense que ça va s'intensifier avec la suite. Oui, il y a deux trois petites choses où je suis bien obligé de dire que oui, ça j'ai zappé parce que c'était pas ce que j'avais voulu moi apporter dans l'histoire ou ce que j'avais voulu, enfin les choses auxquelles moi j'avais voulu les confronter. Mais si je devais, moi je dirais qu'il y a 95% de Hervallon, c'est fidèle au scénario. Les joueurs, je pense qu'ils diront 80%. Il y a des choses. Après, ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi ce que les joueurs ont apporté, alors que c'était pas prévu dans le scénario. Par exemple, moi, il y a une scène qui est mémorable, qui a eu lieu il y a des années, mais je m'en souviens encore et tout le monde s'en souvient. C'est quand Stark, donc qui est un guerrier, il rencontre la guérisseuse. Et la rencontre qui devait se passer, il devait la sauver, cette pauvre guérisseuse, et cette pauvre fille qui venait de se faire attaquer, son oncle est assassiné, elle se prend une baffe et un sort. Et ça, en tant que maître de jeu, ça m'a éclaté. Les joueurs, ils gardent encore l'antagonisme par rapport à ça. Et ça, je trouve que ça apporte des choses à l'histoire et aussi au livre qui sont, c'est super rigolo, quoi. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parle de l'apport des joueurs. Ils apportent aussi beaucoup à leur personnage et c'est une grande, grande facilité.
Donc vous considérez que l'écriture de la seconde chute d'Hervallon, c'est vraiment quelque chose de coopératif, en fait. C'était et vous et des joueurs.
La difficulté en tant que maître de jeu, c'est de réussir à raconter une histoire en faisant croire aux personnages que c'est eux qui la font. Alors forcément, ils ont des apports, forcément, ils amènent quelque chose, sinon ils s'ennuieraient tout au long, quoi. Mais l'histoire, concrètement, à Hervallon, je connais toute la fin et je sais comment ça va se passer. mon rôle, ça va être de les amener là où j'ai envie de les amener.
Ils pourraient vous surprendre et casser le scénario.
Ils n'ont pas réussi pour l'instant. Ils ont réussi à mettre vraiment en difficulté. Ils ont réussi des fois à... Enfin, pour moi, Hervallon, c'est une ligne droite. C'est un point de départ là où, de là où tous sont partis, là où je veux les emmener. Et pour moi, ils font ça, quoi. Donc, il ne faut pas qu'ils partent trop haut ni trop bas. Voilà, c'est là toute la difficulté. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à tout foutre en l'air. Mais je pense qu'ils en sont capables.
S'y essayent.
Oui, je confirme.
Alors, je voulais parler un peu d'immersion, parce que le jeu de rôle, c'est une expérience de jeu très très immersive, puisque tout se passe dans la tête. Le grandeur nature aussi, parce qu'on a froid, on est habillé n'importe comment, on court dans les douves.
Alors là, je suis pas du tout d'accord, peut-être toi, mais non, pas nous.
Ah non ?
Non, non.
On a des photos. Hein.
Comment ?
On a des photos.
Allons-y.
Non, mais tout ça pour dire que ça reste quand même quelque chose de très immersif. Je ne pense pas que vous allez me contredire. Et est-ce que l'écriture, la création, est-ce que ça constitue aussi quelque chose d'immersif quand on crée un univers en littérature de l'imaginaire, par exemple ? Fabrice, par exemple, quand vous créez des univers en littérature de l'imaginaire, est-ce que l'immersion, c'est quelque chose qui est important ? Est-ce qu'on se met dans la peau de l'univers ? Est-ce qu'on essaie de le voir de l'intérieur ?
Oui, c'est déjà une jubilation, la création de l'univers, c'est la partie la plus sympa de la création du roman. Mais je veux dire, l'écriture est un processus très très immersif, mais qui est comparable. Enfin, je vous écoutais là et ça m'amenait des réflexions sur l'écriture du roman. Pour moi, c'est il se passe quelque chose un peu de l'ordre du jeu de rôle de toute façon, sauf que bon, les joueurs, on les contrôle beaucoup plus, ce sont nos personnages, mais dans une partie de jeu de rôle, il arrive que les personnages partent dans des directions qu'on n'avait pas trop imaginées ou qui ne nous arrangent pas, et on essaye parfois de les ramener subtilement dans le droit chemin, autant que faire se peut, en disant les gars, quand même... insulter tout de suite ce tavernier qui fait 3,50 m, c'est pas forcément une bonne idée. Vous voulez pas vraiment faire ça, en fait. Et donc, dans les romans, il arrive... Moi, je suis pas trop comme ça, mais il y a beaucoup d'écrivains qui vont dire « mes personnages, je les contrôle pas, ils font des trucs, etc. » Ce qui est, je trouve, une posture super romantique qu'on a envie de rabattre un petit peu l'écharpe comme ça. Dire « mes personnages, ils sont... » Vous savez, ils sont fous, quoi. Ils sont fougueux, ils font des trucs. Bon. Mais n'empêche qu'il y a quand même cette réalité-là des personnages qui vivent leur propre vie. Et des fois, on est un petit peu obligé de s'adapter à ça. Moi, quand j'écris, je peux écrire un roman, enfin, je peux travailler sur un roman pendant à peu près. C'est pareil qu'un jeu de rôle. C'est-à-dire que pour moi, au bout de 3-4 heures. Pause, quoi. Mais parfois, si c'est très très bien, ben, des fois ça peut être 8 heures, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on a. Les gens qui jouent ont tous vécu les parties qui devaient se terminer à minuit, 1 heure et qui se terminent plutôt à 5 heures du matin, ce qui est dans un cadre scolaire ou universitaire toujours très intéressant. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de points communs et dans le processus de création, mais le processus de création, le jeu de rôle, il se crée par les personnes et il reste pas de trace écrite de ce qui a été joué. La trace, elle est, je dirais presque en amont, quoi. C'est le scénario, c'est l'univers. Mais très franchement, c'est vraiment pas un hasard si il y a énormément de rôlistes et de créateurs de jeux de rôle qui sont devenus romanciers, quoi, à mes yeux. Il y a vraiment beaucoup de points communs, quoi.
Anne, est-ce que Clara, dans le personnage principal de Clairvoyage et de la Brume des Jours, est-ce qu'elle vous échappait d'une certaine façon ? Est-ce que,
Non, je pense que le fait de dire « mes personnages m'échappent », c'est une façon un peu maladroite de dire que par moment, effectivement, on a une idée qui émerge parce que, voilà, on n'a pas obligatoirement... Après, je pense que ça dépend de la façon d'écrire et du stade où on en est. Et de la façon de concevoir un roman. Moi, ça m'est arrivé effectivement dans La Brume des Jours, mais parce que je n'avais pas géré certains aspects du roman, et donc une idée est arrivée comme ça. Et c'est vrai que là, on a un peu le sentiment que le personnage prend le contrôle, alors qu'en fait, on garde le contrôle simplement. on n'avait pas prévu ça exactement. Parce qu'on y
ton
pas.
Honnêteté intellectuelle t'honore, tu vois. Non, mais parce que, je veux dire, non, c'est une posture qui est vachement romantique de dire, mais non, j'y peux rien, non. Je suis le véhicule quoi, de mon roman qui s'écrit à travers moi, je suis désolé. Les personnages, ils ont pris le contrôle, quoi. Et donc, moi, je peux que suivre. Voilà. C'est un non, peu. Il y a un truc messianique, un peu là.
Non,
mais...
non pour moi, c'est juste voilà, une idée qui émerge.
Ouais, pour moi aussi.
Parce que, voilà, il n'y a rien, de romantique là-dedans. Voilà, enfin, moi, je ne maîtrise pas tout de A à Z, et encore heureux, parce que je pense que je m'ennuierais en écrivant, et je laisse certains aspects un peu plus flou, un peu plus vague, et du coup, bah, voilà, l'idée émerge, et je pense que c'est ça, non ? Je ouais, parle ouais, pas aux ouais. autres écrivains, tu sais. Donc,
non, mais il faut pas. C'est... sont plus... être... les rôlistes sont plus sympas. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais donc voilà, ça m'arrive une fois, mais sinon c'était non dans l'ensemble. Je l'ai mieux contrôlé que les joueurs de GN.
Arnaud, quand tu est-ce que tu as participé à tout le côté technique du bouquin de jeu de rôle en lui-même, mise en page, choix des illustrations, etc.
Oui, pour le grand malheur des illustrateurs. Parce qu'en fait, alors pour le coup, ça fait 4 ans que je travaille sur Metal Adventures, donc je suis assez immergé dans l'univers, peut-être même un petit peu trop. Et notamment sur les vaisseaux spatiaux, parce que c'est un truc hyper important pour les pirates de l'espace. Puis parce que, en plus, par rapport aux règles, voilà, le nombre d'armes qu'a le vaisseau spatial, sa taille, tout ça, machin, c'est configuré par les règles. Les deux illustrateurs qui sont occupés des vaisseaux spatiaux ont vécu un enfer. Ils m'envoyaient des crayonnés des vaisseaux. Ah ouais, non, il est trop gros, la tourelle, elle est pas au bon endroit, parce que tu comprends, dans les règles, ça donne des bonus. Enfin, eux, non, ils comprenaient pas. Et ils ont été super, un, sympa, et puis deux, professionnels. Et puis au final, les vaisseaux, ils sont super bien. Mais voilà, c'était mon implication, c'était d'embêter les autres, en fait.
Et est-ce que ça, donc vu que tu as participé à cet aspect-là, tu considères donc que c'est important l'aspect technique du livre en lui-même, donc les illustrations et tout ça, pour l'immersion du joueur. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur quand même.
Ah, carrément. C'est le bon vieux proverbe. Je ne saurais pas le refaire pour de vrai, mais une bonne image vaut mieux qu'un millier de mots. Alors pour le coup, l'éditeur aussi a une très bonne idée. Il m'a dit, écoute Arnaud, voilà, il y a 4 nations dans ta galaxie, il faut qu'on fasse une illustration pleine page pour chaque nation, un truc qui pète bien et qui véhicule vraiment le concept de chaque nation. Et effectivement, alors du coup en texte, ça fait pas beaucoup, mais c'est vrai que ces images-là véhiculent vachement l'univers. Les portraits qu'on a fait réaliser de différents types de pirates, ils véhiculent. Enfin, ouais, c'est super important, quoi. Et du coup, j'en viens à me dire que souvent dans le jeu de rôle, on veut trop faire passer des choses par le texte, alors que des cartes, des frises chronologiques, des illustrations, des plans, des schémas, en fait, c'est super important. En plus, c'est des. Alors quand c'est bien fait, bien sûr, c'est des façons hyper synthétiques et rapides de présenter l'information. Donc halt aux pages de texte, encore 8 sur 4 colonnes, et vive les illustrations et les schémas.
Ok. On parlait tout à l'heure des parties parfois très courtes, parfois très longues. Je suis moi-même personnellement curieux sur l'écriture de la seconde chute d'Hervalon. Quand il est 5 heures du matin et qu'on a joué depuis 4 heures, est-ce que la future production littéraire, qui est en fait la partie qui est en train de se jouer, est-ce qu'elle décline pas fortement en fonction de la dose de sucre ingéré, du manque de sommeil et de joueurs qui partent en live ?
En fait, avant chaque partie, je pense que j'ai un côté un peu maniaque, mais le scénario, il est hyper bordé. Alors après, forcément, comme je disais tout à l'heure, il ne le respecte pas tout le temps, mais comme vous avez tous l'expérience, on a le même problème que Fabrice disait, dont tout le monde connaît, enfin les plus âgés, c'est-à-dire, alors moi, j'ai pas d'enfants, mais mes amis ont des enfants, on a des boulots, donc c'est rare qu'on finisse à 6h du mat. Ça nous arrive encore, mais on essaie d'éviter parce que le lendemain, quand il faut se lever à 8h pour les gamins, c'est un peu difficile. Après, par rapport à ce travail de réécriture, une fois que la partie s'est terminée, et ça va rejoindre aussi ce qu'on a dit, c'est que je suis tellement immergé dans le monde d'Hervalon depuis maintenant des années que les scénarios, je les connais, je les connais par cœur. Ce qui va se passer, en général, je le sais, je le connais. Et du coup, une fois que la partie est terminée, que les joueurs... ont interagi avec le scénario Ce qu'il en reste, je le connaissais, enfin, le scénario je le connaissais d'avant, donc je le connaissais par cœur. Ce qu'ils ont pu apporter les joueurs, ça reste moi dans ma tête comme l'image tout à l'heure de Stark et d'Oriane qui me revient, ça c'est marquant. Et du coup, quand vient ce travail de réécriture qui a lieu entre 6 mois et 1 an après, c'est je reprends tous ces éléments, je reprends mon scénario qui est du coup très, très dur, très, très MJ, et j'amène toute cette douceur ou toute cette surprise qu'ont mis les personnages. Et je pense que c'est là aussi d'où vient le fait que moi je trouve que ça respecte vraiment les parties de jeu de rôle, parce que moi je le fais de mes souvenirs, et que les joueurs disent « bon ça, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé ». Donc il y a une petite différence, puis tout ce travail de réécriture, non, il pâtit pas des fins de soirée un peu difficiles parce qu'il est tard, parce qu'on a bu un peu trop de bière ou qu'on a mangé un peu trop de bonbons.
Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions du public, si les gens ont des questions à poser à nos invités. Alors, est-ce qu'on a des gens qui veulent poser des questions ? Pierre ?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Multisim, notamment Dark Earth, ce qui est un univers que j'apprécie beaucoup. Par la suite, on avait même fait un fanzine pour le poursuivre un peu... Et je rejoins ce qui a été dit sur des univers qui finalement continuent à s'écrire tout seul, des fois par des passionnés, puisqu'il y a des parties volontairement, notamment dans Dark Earth, mais dans d'autres, hein, guildes ou autres, sur lesquelles c'était volontaire de laisser l'univers un petit peu à construire pour les gens qui allaient jouer dedans. Qu'est-ce que ça peut faire de voir après la disparition de Multisim de voir ça, j'ai pas l'impression que, enfin, j'ai l'impression que ça a été une fin d'une certaine époque, parce que je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient interviewés et ont présenté même de nouveaux métiers qui étaient le métier de créateur d'univers. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des interviews et qu'on interviewe des créateurs d'univers à part ici. Je sais pas, est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment par rapport à ça? Enfin, il n'y a pas que Multisim, j'imagine, dans ce cas-là, mais c'est assez propre à Multisim, cette histoire de création de l'univers.
Il y a eu une part un peu de fantasme et de gloriole de la part des auteurs qui se sont je m'inclus dans le nombre, hein, qui se sont auto-investis. Qui ont revêtu comme ça vraiment un statut, parce que je crois que le slogan de Multisim à l'époque, c'était les alchimistes de l'imaginaire, ce qui est quand même super prétentieux, quoi. Bon, en fait, vous créez des mondes de jeux de rôle, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé. Je pense qu'il y a un truc qui a joué, c'est que à un moment, Multisim était en contact avec une maison de jeux vidéo qui n'existe plus non plus, qui s'appelait Callisto, et dont le PDG avait à peu près le même âge que nous, il avait 2 ans de plus, quoi. Et était fasciné par ce côté création d'univers foisonnant, etc. Parce que à l'époque, il avait l'impression, lui, que justement ce qui manquait dans les jeux vidéo, c'était cet aspect, un monde super vaste, l'imagination, voilà. Et donc, nous, on travaillait un petit peu avec eux pour créer des mondes. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est né Dark Earth. On avait cette espèce de Magic Touch qui faisait que on était habité encore une fois par des univers fantasmagoriques qui allaient dépasser en imagination baroque tout ce qui s'était fait auparavant. Or il se trouve que voilà, on a buté assez comiquement, paradoxalement aussi sur le mur du réel, à savoir que de toute façon il y a une question technique qui s'est posée, c'est-à-dire que c'est bien gentil d'inventer des univers comme ça, mais dans le jeu vidéo, faut les faire vivre comme dans un roman, et ça coûte plein d'argent, quoi. C'est-à-dire que bon, même chose au cinéma, quoi. Hein, vous avez en tête des effets spéciaux, vous avez en tête des visions, et quand après, alors sur le moment, on vous dit t'es génial ou tu vas chercher tout ça, etc. Et puis après, j'ai discuté avec les concepteurs, enfin les gens qui sont dans le graphisme, etc. Et ça va être difficile parce que là on n'a que 10 millions d'euros, machin, donc on va plutôt pas faire ce truc avec ce monde qui fait 40 000 km de long en spirale, voilà. Donc ça c'était le c'est le premier point, et c'est toujours l'avantage qu'on a quand on écrit du roman. C'est quand on écrit du roman, on peut faire absolument ce qu'on veut, hein, au niveau de la création d'univers. Maintenant, ce que vous évoquez, le fait que les univers continuent à vivre, je crois que c'est un truc qui est assez touchant. C'est un truc qui est assez unique, en fait, même dans la création, comme ça. C'est-à-dire que quand vous écrivez un roman, bah, votre roman, bah, les gens le lisent, puis après, ils passent à autre chose. S'ils veulent utiliser votre univers, alors ils peuvent faire aussi des jeux de rôle, ça c'est des choses. Nous on a été contactés récemment là, pour la bande dessinée La Brigade Chimérique, manifestement quelqu'un veut faire un jeu de rôle là-dessus. Et moi ça faisait 10 ans que j'étais plus dans cette problématique et j'étais très content sur le coup. Après peut-être ça va être compliqué à faire, je sais pas. Mais le fait de faire vivre un univers comme ça hors de ses créateurs, c'est très bien. Quand vous écrivez un roman, les lecteurs s'en emparent. Votre roman, entre guillemets, vous appartient plus. Les gens sont contents de le lire. Voilà. Le jeu de rôle, bah, effectivement, les gens vont créer. Vous avez dessiné une carte, vous avez pensé à quelques pays, et puis le continent va s'agrandir derrière, ou d'autres îles vont apparaître, ou des gens vont vivre dans cet univers, des gens que vous n'avez pas créés, vous. C'est une idée. C'est un concept qui est magnifique, je trouve. Voilà. Donc. J'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Je sais juste que j'ai mon copain Mathieu Gabory, il est vachement là-dedans parce que il a créé voilà l'univers d'Agone, etc. Et ça continue à vivre par des fanzines. Enfin, honnêtement, je suis pas ça très très près, mais je crois que c'est quelque chose qui le
ça continue encore.
Ça continue. Bon, c'est un truc qui le touche beaucoup, quoi. Voilà. Et sa femme va lui dire, mais qu'est-ce que tu fous là avec les trucs de jeux de rôle, tu vois, tu dois écrire des romans, tout ça. Mais il y a ce côté, le jeu de rôle c'est pas sérieux, le roman oui. Enfin, il y a le truc de la littéralité. Bon, mais en attendant, il y a toujours ce que j'ai. On revient à ce que je disais au début, hein, le petit pincement au cœur du jeu de rôle, de l'aventure communautaire. Il y a un truc un peu utopiste là-dedans qui fait que généralement, quand ça arrive à des créateurs, c'est pas du tout un problème que ça continue sans soi. De toute façon. Pour l'exemple de Mathieu Gabory, il gérerait pas ce truc-là tout seul, mais bah, il est content de voir que ça advienne, comme vous êtes content de voir que vos enfants ils partent de chez vous et à un moment et bah, voilà, ils vivent leur vie et ils font d'autres trucs. Bon, ça reste vos enfants, vous avez pas le contrôle sur eux et tant mieux, quoi.
Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Comment est venue l'idée de partir de votre jeu de rôle et faire le roman par la suite? Est-ce que c'était je suppose qu'au départ il n'y avait pas d'idée de roman et après l'idée de roman est venue après. Et une autre question, qu'est-ce qui était le plus dur, c'est de mettre le monde noir sur blanc ou d'écrire les scénarios qui ont été joués et les idées farfelues des joueurs, quand on est tous un peu baso par moment et ça part un peu en live? Est-ce qu'il y a eu une difficulté à ce niveau-là, quoi?
Alors, à la base, je voulais absolument pas en faire un roman. L'histoire d'Hervalon, la seconde chute d'Hervalon, donc ce sont les trois premiers tomes, on les a joués en 4 années, 4 années réelles, avec on a arrêté un petit moment pour une raison de déménagement. Et pendant 4 années, on s'est tous vus, donc à part le moment où on s'est pas vus, mais tous vus, tous les mois, on se voit, et d'ailleurs on continue, c'est chaque dernier week-end du mois, tout le monde se retrouve, alors soit chez moi à la campagne où il y a une baraque et du coup les gamins ils s'éclatent, etc. Soit l'hiver, comme chez moi, chez la campagne, il fait froid, on va plutôt vers Paris. Mais c'est vraiment quelque chose qui est instauré, c'est une bande d'amis, enfin, on fait les jeux de rôle ensemble depuis 15 ans. Et du coup, il y a Hervalon, c'est à la fois l'histoire de cette amitié qui nous relie tous et de ces moments qui sont vraiment ancrés. Hein, et où, malgré les gamins, malgré le boulot, malgré la fatigue, malgré les vacances, malgré la vie de tous, on se retrouve tous. Donc pendant 4 ans, on a joué et il s'est passé quelque chose. Alors quoi, je sais pas, mais à un moment, j'ai compris que les joueurs, ils étaient accros à cette histoire. Parce que jamais ils ratent une partie, et pourtant il y a des dizaines de raisons. Que quand on finit une partie, même s'il est 5h du mat, la maman qui sait qu'elle va devoir se lever à 8h parce que son petit leur a faim, bah, elle est toujours là, comme ça, mais elle est là. Et voilà, donc il s'est passé ça, et quand on a fini la seconde chute d'Hervalon, ça a été, c'est la première fois que je me suis fait applaudir par mes joueurs. Enfin, c'est quelque chose qui paraît aberrant, mais je leur ai lu l'épilogue. Et là, ils m'ont tous regardé, ils ont applaudi. Mais c'est quelque chose qui est, c'est inimaginable. Et je me suis dit, mais je peux je peux pas, ça ne peut pas s'arrêter. Voilà, je ne voulais pas que ça s'arrête et je pense qu'eux non plus ne voulaient pas que ça s'arrête. Et du coup, je me suis dit, on a tous tellement donné là-dedans que je vais réécrire l'histoire pour qu'il y ait quelque chose qui reste de toutes ces années de jeu et toute cette histoire qu'ils avaient tellement aimée et qui, moi, m'a pris un boulot mais monstrueux parce qu'il y a de la création d'univers. Pardon ? Oui, donc tout à fait, il y avait vraiment... Bon. Et du coup, ça m'a pris, juste pour la seconde chez Darvalon, donc les trois premiers tomes, ça m'a pris un an entier de boulot, mais acharné, parce que je bosse la journée comme tout le monde. Mais le soir, enfin tous les soirs, je bossais 3-4 heures. Enfin bon, c'était vraiment un trou noir, quoi. Et au bout d'un an, donc j'ai sorti les bouquins et je leur ai donné. Et là, ça a été un moment magique, c'était au mois d'octobre, il y a 2 ans, je crois. Enfin, c'était en octobre. Et tous, ils en revenaient pas, quoi. C'est comme si je leur avais montré un peu notre amitié, un peu de toutes ces parties. Mais je pense que tous, j'espère que ça vous parle ce que je raconte, mais quand on parle de l'organisation, du fait de se voir régulièrement, il y a quand même quelque chose qui est... C'est vachement humain, enfin, c'est quelque chose qui est génial. Et donc, une fois que j'ai fait ce travail, du coup, en reprenant tous mes scénarios, en reprenant ce dont je me souvenais de leurs actes et de ce qu'ils avaient amené dans leurs personnages, mais leurs personnages, je les connais par cœur, et puis l'avantage que j'ai, c'est que je connais très bien mes amis et que leurs personnages, ils n'ont jamais été aussi proches d'eux que dans cette partie, parce que j'en ai fait des centaines de parties avec eux, mais leurs personnages sont très très proches d'eux. Donc tout ce travail, donc, je l'ai fait à partir de mes scénarios, à partir de ce que je connaissais d'eux, de ce dont je me souvenais, et pas de tout. Et une fois qu'il a été fait, je me suis dit, mais vraiment, je ne suis pas pris la tête, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est fait, les bouquins sont là, je trouve ça plutôt sympa, ça, c'est pas Tolkien, je le sais bien, mais je l'envoie, donc je ne me suis pas pris la tête. Et quelques mois plus tard, j'ai été appelé par Mnemo, donc j'étais dingue, mais voilà, j'étais surpris. Enfin, c'était génial, quoi. Mais et ce qui est génial, et je terminerai là-dessus, c'est et ça rejoint un peu quand on parlait après de l'appropriation des univers. Ce qui est génial, c'est de voir qu'une histoire pour laquelle on a su à la construire, qu'on a racontée, eh bien, comment elle nous échappe. Et bon, moi je débute là-dedans, j'y connais que dalle et j'ai pas de prétention là-dedans, mais je me souviendrai aussi toujours du moment où j'ai vu la première couverture qui avait été faite pour le tome 1 d'Hervallon, qui a été faite par Julien Delval, qui est un mec hyper balèze, et de voir son propre monde qu'on a imaginé, etc., de le voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est pas un ami à qui on a raconté cette histoire, c'est un moment vraiment très très fort. Et je pense que ça paraît pour tout le monde, c'est que voir ce qu'on a imaginé par les yeux de quelqu'un d'autre et se dire que ça existe en dehors de soi, c'est magique, quoi.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ?
Bonsoir. J'ai juste une petite question. Quand on crée un univers pour du jeu de rôle, plus que pour un roman, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? C'est-à-dire... quelle est la finesse de création qu'on doit avoir ? Est-ce que si on va trop dans les détails, on ne brise pas un petit peu l'imagination que peuvent avoir des joueurs ? Ou est-ce qu'au contraire, plus on creuse et plus on crée des choses et plus ça peut faire des rebonds ? Parce que là, en fait, je suis en train de créer un truc et j'aimerais bien savoir un peu vos sentiments à vous qui en avez fait quelque chose de...
Arnaud, peut-être
J'aurais envie de répondre, ça dépend. Ça n'a pas t'aidé beaucoup. Il faut distinguer. Je pense qu'il faut distinguer la conception de la rédaction. Toi, dans ce que tu conçois de l'univers, tu peux aller aussi loin que tu veux dans le détail. À la rigueur, plus tu le connaîtras, et mieux ce sera. Après, là où il faut éventuellement se poser la question de où je m'arrête, c'est dans les textes que tu vas rédiger à l'attention des joueurs. Et là, il faut distinguer entre les joueurs et les... Enfin, je pense qu'il faut distinguer entre les joueurs et les meneurs de jeu. Je pense que pour les joueurs, il faut rester relativement générique, parce qu'à la rigueur, ce dont ils ont surtout besoin, c'est d'ambiance et de matière pour interpréter leur personnage. Mais ils n'ont pas forcément besoin de savoir, je sais pas, la taille des portes ou la réglementation de la vente de bière dans la province numéro bidule. Et j'aurais tendance à dire qu'à l'inverse, pour le meneur de jeu, il lui faudrait surtout des choses qui vont tout de suite très dans le détail. C'est con à dire, mais des plans, des PNJ avec les fiches et tout. Enfin, qu'ils soient vraiment des outils prêts à l'emploi. Et dans tout ça, au final, le degré de détail, ça dépend aussi du style de jeu. Si c'est un jeu politique entre guillemets à la Neuf Princes d'Ambre ou la Trône de Fer, ça vaut le coup d'y aller un peu à fond sur l'histoire, la géographie, la société et puis tout ce qui peut influencer sur les relations politiques. Si c'est de l'aventure entre guillemets à la Donjons et Dragons, c'est peut-être pas essentiel d'aller aussi loin. Je suis désolé, je crois pas que j'ai de réponse absolue à la question.
Je suis pas sûr qu'il y en ait une. En fait.
Ouais, j'espère, sinon je vais avoir l'air bête.
Et on avait une autre question, je crois. On peut encore en prendre une, je pense.
Tout à l'heure, Arnaud Cuidet, vous évoquiez les erreurs classiques du rôliste qui passe au roman ou à la BD. Donc j'aurais voulu en savoir un peu plus sur quelles étaient ces erreurs classiques.
Merci.
Donc, Arnaud, alors, vas-y, ridicule l'histoire en disant toutes tes erreurs.
Ouais, c'est ça. C'est super sympa comme conférence. Je crois que les deux erreurs que j'ai faites, quand je dis que c'est des erreurs classiques, j'ai pas la prétention de dire c'est les erreurs qu'il faut surtout pas faire, mais en fait c'est un ami à moi qui est aussi rôliste et qui aussi fait une BD. Quand je lui ai montré et qu'il l'a lu, il m'a dit écoute, t'as fait tout, excusez-moi du terme, mais t'as fait toutes les conneries que j'ai faites moi aussi. Donc d'où l'expression les erreurs classiques du rôliste. Enfin moi les deux erreurs que j'ai faites, je pense, c'est que j'ai fait un univers trop compliqué avec de la magie, avec des éléments, des sortilèges, des machins, des trucs. Dans une BD de 44 pages, c'est pas facile à faire passer. Et alors même si on envisage X tomes, c'est pas évident. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que du coup l'univers était tellement complexe que l'histoire s'est mise au service de l'univers, alors que j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. Il faut que l'univers serve de cadre à l'histoire. Voilà, mes co-détenus pourront en dire plus que moi. Et du coup, au final, l'histoire que racontait cette BD n'était pas forcément aussi pas forcément hyper palpitante, parce que c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, dès qu'il y avait une route, une colline ou une vieille ruine, c'était ah oui, tu te souviens, cette ruine, machin, bidule. Et du coup, ça casse un peu la narration quand même. Voilà, donc c'est les deux erreurs qu'en tout cas moi j'ai faites et que je referai plus, promis.
On en avait une dernière d'avant, une question piège.
Oui, Arnaud, t'en as déjà parlé. Je voulais poser une question par rapport à vos sources d'inspiration majeures. Arnaud t'en a parlé, toi t'as parlé des dessins animés, de la BD, David a parlé de la musicalité, et je voulais poser la question à David et à Anne, plus savoir quelles sont les sources d'inspiration majeures qui ont marqué votre œuvre, votre création.
En général, moi pour le clairvoyage, c'est Lewis Carroll évidemment, puisque c'est par Lewis Carroll que j'ai commencé à lire vraiment de la littérature de l'imaginaire. Après, il y a plein d'autres inspirations, une petite inspiration de Shakespeare parce qu'il y a des fées dans le clairvoyage et que les fées de Shakespeare me plaisaient. Je les ai découvertes tard, mais voilà. Et puis, Pierre Dubois, je pense que vous connaissez tous. En 1983, dans Spirou, il publiait le grand fabulaire du petit peuple avec René Haussmann, et je me souviens d'avoir lu ça petite et d'avoir vu une autre facette des fées, des fées folkloriques. Pas cucu, pas rose, pas avec des paillettes, ni bonne ni mauvaise, différentes. Voilà pour les inspirations. Et en grandeur nature, là, je suis incapable de répondre. Je suis vraiment désolée. Un peu de tout. Je m'appuie beaucoup sur le travail des autres puisque j'écris beaucoup de background et je finalement assez peu de scénarios. Voilà.
Donc moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, ça joue beaucoup, mais c'est des ambiances. Je crois qu'aussi, je suis très aussi marqué par tout ce que j'ai lu. J'ai beaucoup, beaucoup lu, et forcément, ça ressort à un moment, je pense qu'on est tous pareils. J'aime beaucoup Virginia Woolf, par exemple, c'est un auteur que je trouve fantastique. Je pense que dans les personnages, de la manière dont moi je les retranscris, ça doit ressortir. Peut-être que ça ressort, je ne sais pas. Il y a forcément un petit Seigneur des Anneaux. Il y a tout ça qui ressort un peu. Après, j'espère que c'est bien retranscrit à ma sauce pour qu'il y ait une partie de, de personnel. Donc pour revenir sur l'inspiration, c'est la musique et c'est aussi beaucoup la campagne. J'ai passé 10 ans à habiter à Paris dans lequel j'étais un foutu d'écrire une seule ligne, et depuis que je suis revenu à la campagne, l'imaginaire, je trouve qu'il est décuplé parce qu'il y a du brouillard, parce qu'il y a des... non, on s'emmerde pas, il y a beaucoup de boulot, mais parce qu'il y a du brouillard, il y a un chien qui aboie, il y a des chouettes qui passent, enfin, et à chaque fois ça titille, on se dit pourquoi est-ce qu'il y a ce bruit, qu'est-ce qui fait ce bruit, qu'est-ce qu'il y a derrière ce brouillard. Il y a beaucoup de ça aussi, musique, paysage, la campagne.
Ouais, c'est principalement l'alcool, hein, quand même. Non, en fait, je voulais dire un truc à propos de Tolkien. Pour moi, c'est pas que Tolkien soit vraiment une source d'inspiration, mais disons qu'il plane sur les auteurs de fantasy. L'ombre de Tolkien est assez inévitable. Et m'a amené à me dire il y a quelques années que si je réécrivais ce que j'appelle de la high fantasy, c'est-à-dire de la fantasy avec des dragons, des elfes, des forêts, de la magie, etc. Enfin, c'est un boulot de titan, quoi. C'est vraiment difficile de passer après Tolkien, parce que finalement, il a fait le truc parfait par rapport à ce genre-là. Je ne parle pas de l'histoire, mais quelqu'un qui a réellement créé un monde. Et la suspension d'incrédulité, là, elle marche à fond, parce qu'on croit à son monde, parce que, je veux dire, il a bossé dessus pendant 20 ou 30 ou 40 ans. C'est un monde qu'il connaissait certainement mieux que la plupart d'entre nous connaissent le vrai monde, quoi. C'est-à-dire, il connaît les langages, il connaît les dieux, il connaît tout. Il a la philosophie, la géographie, les races, la magie. Il connaît tout sur son monde. Alors, c'est un peu une lapalissade. Tous les créateurs, par exemple, de jeux de rôle sont censés connaître des choses sur leur monde. Je te disais que vous êtes resté immergé longtemps dans votre monde, et je comprends tout à fait le truc. Mais Tolkien, c'est à une échelle tellement démesurée que, voilà, ça paraît un peu, après, difficile d'écrire dans ce genre-là spécifique de la high fantasy. Moi, j'ai essayé une fois, mais à mon sens, maintenant, si on est dans une optique, on peut vouloir écrire un truc sympa, mais on s'est souvent posé la question, notamment avec les... Moi, je me souviens, j'avais des discussions avec les gens de Bragelonne sur justement la fantasy il y a 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait produire, comment on pourrait révolutionner ce genre. Et on a tous un peu baissé les armes en se disant... peut-être on pourrait, mais on n'a pas forcément que ça à foutre de nos vies, quoi, parce que c'est un truc qui est, à mon sens, monstrueux, enfin, dans le sens positif du terme, mais c'est l'œuvre d'une vie, quoi. Le Seigneur des Anneaux, c'est l'œuvre d'une vie. Créer un monde avec cette richesse de détails, quelque chose qui n'est pas anodin, quoi, qui va vous engager entièrement en tant qu'auteur pendant même pas seulement des années, mais peut-être des décennies, et voilà. Et je trouve que c'est quelque chose pour un auteur de fantasy qui est intimidant et qui est incontournable. On peut pas ignorer que Tolkien existe. Vous pouvez ignorer pratiquement tous les autres auteurs, c'est bien de les connaître, mais voilà, Tolkien à un moment a posé là un truc, et on peut essayer d'aller droit dans sa direction, on peut contourner, on peut faire totalement autre chose. Mais c'est là et ça bougera pas, quoi.
Alors avant de conclure, moi j'ai une question à poser à Anne. Si y a demain quelqu'un qui vient vous voir et qui dit je voudrais faire un jeu de rôle féerique un peu inquiétant dans l'univers du clairvoyage et de la brume des jours, vous lui diriez quoi?
Qu'il faut avoir envie de jouer une fillette de 12 ans harcelée par des fées. Je serais ravie, évidemment, mais comme l'a dit Fabrice, que son univers vive sans soi, c'est évidemment un souhait, je crois, pour tous les auteurs, évidemment. Maintenant, en termes de jouabilité, je me demande comment. Enfin, je serais intéressée de voir comment transformer un roman d'ambiance comme Le Clairvoyage en jeu de rôle, justement. En termes de jouabilité, ça me semble très compliqué. Donc. Voilà. Donc
le défi est lancé, voilà. Il n'y a plus qu'à s'y coller. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler ce soir. Donc on peut les applaudir, les remercier. Merci beaucoup aussi. Ah oui, donc ils sont en dédicace. Les auteurs qui sont là ce soir sont présents en dédicace. Donc il ne faut pas hésiter à lire, à essayer, à tenter, à venir leur parler au stand de dédicace. Ils seront, c'est écrit sur le programme, les dédicaces sont à l'étage. Donc C'est maintenant d'ailleurs. Bon, bah maintenant la dédicace. Donc vous pouvez foncer les récupérer. Donc merci encore aux Utopiales pour nous avoir permis d'organiser cette table ronde. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci aussi à Sarah Millet pour l'organisation, pour avoir réuni les auteurs. Et donc je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle conférence.